les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli.
Bonjour à tous. Parfois, la philosophie s'invite là où on s'y attend le moins. Un samedi soir, un peu désœuvré devant la télévision, vous tombez sur un champion de bodybuilding, Samuel Altman, invité d'un talk show sur une chaîne de la TNT. Et vous voilà interpellé par son corps déformé par une musculation à outrance, au point de ressembler à une marionnette ridicule. Champion du monde du culturisme, il ne se cache pas de prendre des produits dopants interdits. Et soudain, mon cerveau sort de sa torpeur, alors que se développe la sempiternelle conversation entre des invités du showbiz, jouant les pucelles effarouchées, dans un milieu où toutes les drogues sont en libre circulation, et un invité candide qui vient défendre un sport extrême, dangereux pour la santé, mais qui sert de modèle à des milliers de jeunes.
Depuis, vous avez vachement pris en masse. C'est pas la même compétition que vous faites aujourd'hui que ce que vous faisiez à l'époque, c'est pas la même catégorie.
Non, là, c'était une fédération dite naturelle. C'est le seul sport où on fait la distinction entre le bodybuilding naturel et le bodybuilding non testé, on dit.
Donc aujourd'hui, vous êtes en non testé.
En non testé.
Et non testé, ça veut dire prendre des produits.
Non, mais ça veut dire
pas dans les normes européennes.
C'est exactement ça, exactement.
Des jeunes qui idéalisent le rapport à un corps musclé à travers les réseaux sociaux, démultipliant les images de ce genre de pratique. Et me voilà piégé. En tant que presque boomer, soit je riais devant mon écran en m'exclamant « quelle horreur !» Il est vrai que l'individu apparaissait déformé, presque comme un personnage de cartoon gonflé à l'hélium. Et dans ce cas-là, je pouvais être taxé d'ignorant, de jaloux, voire de frustré. Il est également vrai que ce sont mes abdos qui, eux, sont gonflés et pas à l'hélium. Ou bien je faisais le rôle du spectateur respectueux des autres, tolérant, et donc fade, sans avis, l'archétype même du lâche. Soyons clairs une bonne fois pour toutes, la pratique du bodybuilding m'apparaît comme étant ridicule et esthétiquement de parfait mauvais goût. Mais quel est l'intérêt de ce simple point de vue subjectif? Plaisir sans concept qui n'appartient qu'à mon regard. En quoi cela pourrait intéresser la philosophie? Je vais plutôt faire un pas de côté. Décaler mon propos et me demander de quoi est-ce que ce genre de pratique est le signe de notre société. Car Samuel Altman, s'il est invité dans une émission de TV nationale, c'est qu'il représente une communauté assez importante en 2025. Que symbolise-t-il? Que cherche-t-il à montrer en gonflant outrageusement son corps? De quel signe est-il porteur? Peut-on faire la sémiologie du bodybuilding? La sémiologie, ou autrement appelée sémiotique, les deux termes étant quasiment synonymes, est une science humaine née au siècle dernier et part d'un principe simple. Toute manifestation humaine est porteuse de sens. Rien n'est gratuit, rien n'est muet. Un des représentants français les plus brillants de la sémiotique fut Roland Barthes, intellectuel majeur décédé en 1980 et qui marqua son époque avec une compilation de chroniques parue en 1957, Mythologie. Dans ce livre, il étudie toute une série de phénomènes propres à la société dans laquelle il vivait, c'est-à-dire la France des Trente Glorieuses, consommatrice des nouveaux plaisirs et pleine d'espoir pour son avenir. Même si ce livre a une partie analytique et théorique, c'est surtout lorsque Barthes analyse des éléments concrets que son ouvrage devient vraiment inspirant. De la voiture emblématique de Citroën, la DS, il écrit « Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques. » Je veux dire, une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique.
Vous écrivez dans votre livre que la nouvelle Citroën, ce n'est pas du tout de la publicité que nous allons lui faire, la nouvelle Citroën, dites-vous, est-ce qu'il ressemble plus, selon vous, aux cathédrales gothiques? J'aimerais que vous expliquiez
Oui, c'est une sorte d'image de début que j'ai employée, parce que je crois en effet que maintenant, une automobile, surtout une automobile nationale, n'est-ce pas, appartenant à une marque nationale, est vraiment à la fois le produit d'un travail collectif anonyme, d'ouvriers, d'ingénieurs, et en même temps rencontre une très grande consommation collective, exactement comme pouvait être à la fois produite et consommée les grands édifices religieux du Moyen-Âge.
Oui.
Il fait également la comparaison entre les matchs de catch, ouvertement truqués, et le judo, l'un exprimant les valeurs du bien et du mal, l'autre la sophistication et l'humilité de la chute silencieuse. Il s'arrête même sur la publicité pour une sauce tomate, pour montrer la mécanique de la suggestion de l'achat. Tout a du sens, tout est parlant. Roland Barthes s'inspira du travail d'un linguiste, Ferdinand Saussure, qui expliquait que tout était signe, signe de quelque chose. il ne faut surtout pas se contenter d'accepter les messages envoyés par notre société, comme si c'était superficiel. Tout signe est divisible en deux parties étroitement liées, de manière aussi arbitraire qu'intime, de manière immotivée, mais définitivement indissociable. La première partie de ce tout est le signifiant, l'image acoustique, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qui interpelle notre esprit par sa musique et ses couleurs. Et il y a le signifié, c'est-à-dire le sens profond, le concept derrière le son. La déesse était ainsi le symbole des Trente Glorieuses, le prestige de l'industrie française qui résonne dans le monde entier. C'est le triomphe de la bourgeoisie qui consomme ces articles jetables que sont les voitures.
Sur les routes de France, t'as mis tant de familles en transe. Elles avaient parfois mal au cœur, mais n'ont pas gardé de rancœur. Simple coup d'accélérateur ont fait exploser ton compteur. Tu te la joues sport et peinard, même au passage du petit clamart. J'aime ton corps, ma déesse. J'aime ton corps et puis tes fesses. J'aime ton corps tout simplement, ce jusqu'à la fin des temps. Oh, oh, j'aime ton corps, ma déesse. Ton hydraulique et ta souplesse. J'aime ton corps évidemment. Restons tous deux adolescents.
Aujourd'hui encore, cela résonne dans nos oreilles au point que c'est devenu une marque de voiture à part entière. Signe d'un luxe qui ne se veut pas tapageur. Un luxe qu'on peut admettre et dont on peut jouir sans être accusé d'être ultra riche dans un pays qui a la passion de l'égalité. DS3, DS4, voilà donc des signes qui résonnent encore plus de 70 ans après la création de la première série. On revoit le général assis au fond de sa DS. La carrosserie criblée de balles, mais survivant aux attaques de l'OS du petit Clamart. La DS, c'est la voiture de la France moderne, moderne de nos grands-parents. Certes, ce lien entre signifiant et signifié est relatif, relatif à une culture, à un pays, à une époque. Mais on ne peut pas s'en défaire, on ne le choisit pas. Nous sommes soumis à cet attelage. C'est pourquoi le bodybuilding peut intéresser la philosophie. Car nous pouvons nous demander de quoi est-il le signe. Je ne vais pas entrer dans le détail des catégories de ce sport, de ce culte du corps et de la performance statique. Statique, car il ne s'agit ni d'une course, ni d'un affrontement. Le bodybuilder est seul face à lui-même, même s'il participe à un concours, même s'il donne l'impression de battre ses adversaires. Il n'y a en réalité aucun affrontement, sauf contre lui-même. Certes, on peut le considérer comme un sport dans le sens où il y a, au cours de la préparation, une forme d'austérité totale. Ne pas manger normalement et s'astreindre à des exercices qui sont poussés jusqu'à l'absurde. La force n'est pas utilisée pour réaliser des actes extraordinaires, mais juste être apparente. Le signe premier est donc celui de l'image. L'image de soi reflétée dans un miroir ou dans les yeux du public et du jury. Il ne s'agit pas de pousser vers une forme d'héroïsme en montrant qu'on peut se dépasser dans une spécialité proche de la nature, courir, faire corps avec une équipe, battre les autres, élaborer une stratégie face à des événements inattendus. Non, rien de tout cela. Le bodybuilder n'a rien à raconter, tout à montrer. Shine on, crazy. Le bodybuilding extrême, tel que Hartmann le pratique, est source d'un important travail sur soi-même, en décrivant les normes gymniques qui lui sont associées. Le deuxième signe est donc celui du sacré. Pour devenir un vrai bodybuilder, le pratiquant sacralise en effet son identité en respectant certaines règles de pureté. Pureté des formes du corps, pureté du rapport à l'effort. Être bodybuilder, c'est rechercher à s'isoler de toute forme de corruption. Que serait la graisse ? Du moins, c'est la base de sa pratique. Même si nous savons que les produits hyperprotéinés ne sont pas ce qu'on pourrait appeler une forme de pureté diététique. Il n'empêche, tout consacré à quelques minutes d'exposition sur un podium, en sous-vêtements, le corps huilé revient à sacraliser cette pratique, à en faire presque une forme de religion. Troisième signe, le narcissisme, l'individualisme et la solitude nécessaires pour une telle pratique sont paradoxalement associés à un corps collectif, celui d'une sous-culture qui a ses codes, ses rituels et dont ses héros modernes forment le centre attractif. Le bodybuilding est le symbole de notre société où chacun ne s'identifie plus à un tout patriotique mais se sépare des autres en adoptant sa propre communauté. L'idée de sous-culture n'est pas péjorative. Il ne s'agit pas de dire que cette pratique est méprisable. Après tout, nous sommes toujours les cons de quelqu'un. Mais en revanche, cela apparaît comme une sous-culture, car le groupe social qui s'y identifie, lui, n'est pas représentatif de l'ensemble de nos contemporains et s'en porte très bien comme ça. Il veut pouvoir s'épanouir en étant différent, en se rassemblant au sein de ce qui peut devenir pour lui une religion, un lien qui va le protéger dans l'absence de repères à l'extérieur. Le sociologue polonais, Zygmunt Bauman, évoquait l'idée que notre société était devenue liquide après l'abandon des dernières grandes idéologies du XXe siècle. Les repères moraux et identitaires n'ont plus la solidité du siècle dernier. Du coup, appartenir à une sous-culture nous permet d'avoir un point d'ancrage. Et le bodybuilding nous évoque ces demi-dieux grecs, Achille ou Thésée, qui sauvaient leur peuple grâce à leur force. Certes, ces athlètes ne sont qu'images, mais notre société ne vit qu'à travers ces écrans. Hartmann peut donc revendiquer calmement son usage de produits dopants. Il peut exhiber son corps déformé. Il n'est rien d'autre que le signe de cette société qui s'émiette, qui se liquifie, mais dont les membres ont toujours besoin de modèles pour s'identifier et créer une nouvelle communauté de valeurs.
Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Cette chronique de philosophie a été rendue possible grâce à la politique d'antenne de Radio Pays d'Hérault et donc indirectement des subventions que cette radio touche du ministère de la Culture dans le cadre du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. Mais en 2026, ce gouvernement propose à nouveau une diminution de la dotation du FSER. Celle-ci passerait de 35,3 millions d'euros à 19,6 millions d'euros, soit une baisse de crédit de 44,5%. Si vous aimez les émissions produites par RPHU des radios Pays d'Hérault, soyez attentifs à ces choix dramatiques pour toutes les radios associatives. Mais en attendant, je remercie Solène pour la technique et le montage et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.